patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, contente toujours de vous retrouver.
Et oui, moi de même, et j'espère que les auditrices et auditeurs aussi ont la joie de nous retrouver tous ensemble.
Voilà.
On poursuit sur les saints vénérés dans le Quercy, et je crois savoir que malheureusement c'est la dernière émission, Chantal. Donc oui. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura même pas deux saints, il y en aura trois. Est-ce oui. que vous pouvez nous dire quelques mots? Qui sont-ils?
Alors, deux saintes, Sainte Spérie et Sainte Fleur, et je voudrais terminer par... un saint qui est beaucoup plus réel, beaucoup oui. plus proche de nous, puisqu'il s'agit, Armand, de Jean-Gabriel Perboire, qui
très
vécu dans le Lot. Alors là, c'est tangible,
oui,
on peut le voir vivre. Tandis que les saints que nous avons visités, ce sont des saints qui appartiennent à la fois à la légende et à notre florilège de saints du Quercy.
Parfait. Eh bien, écoutez, on commence par Sainte Spérie, du coup.
Voilà.
Allez.
Alors, Sainte Spérie, sa légende nous indique qu'au 8e siècle, Sérénus, seigneur du château Saint-Laurent, aujourd'hui Saint-Laurent-les-Tours, près de Saint-Céré, avait une fille nommée Spérie, qui, fort pieuse, avait fait vœu de virginité pour se consacrer à Dieu. Bon, est-ce que vous connaissez des jeunes filles qui s'appellent Spérie, Armand?
Non, du tout.
Non, moi non plus. Mais voilà, la pauvre, refusant d'épouser un seigneur du voisinage, un certain Elidius, elle se réfugia dans la forêt pour échapper à son prétendant. Hélas, celui-ci finit par la retrouver et, devant son refus persistant, la décapita d'un coup d'épée. La jeune fille prit alors sa tête dans les mains et, devant son bourreau médusé, marcha avec sa tête dans les mains, je répète, et marcha jusqu'à une source proche pour s'y laver. On l'enterra près de cette fontaine et sur sa sépulture se construisirent d'abord une chapelle, puis l'église Sainte-Spérie, devenue l'église paroissiale de Saint-Céré. Donc vous voyez, sa vie et son martyre a servi à construire donc une église paroissiale.
Effectivement.
Alors, comment est-elle représentée? Eh bien, elle est figurée sous les traits d'une jeune femme, parfois couronnée de fleurs, tenant la palme des martyrs. On l'a aussi représentée portant sa tête ensanglantée. Et d'ailleurs, sur un tableau de l'église de Saint-Laurent-les-Tours, on la voit priant dans le creux d'un arbre. Mais hélas, elle n'a pas pu rester longtemps dans le creux de cet arbre parce qu'elle fut retrouvée par un chien qui avait guidé ses poursuivants. Donc son culte, eh bien, se fait autour des restes de Sainte-Spérie. Ces restes avaient été placés dans la petite crypte qui se trouve sous le sol de l'église actuelle. Attirés par le récit de divers miracles, les pèlerins ne tardèrent pas à y venir en foule pour prier sur son tombeau. Les reliques ont disparu. Elles furent emportées, dit-on, par les Anglais lorsqu'ils évacuèrent le Quercy à la fin de la guerre de Cent Ans. Mais la dévotion à Sainte-Spérie a survécu à cette fâcheuse spoliation. À l'intérieur de la crypte, on montre une minuscule fontaine dont l'eau passe pour guérir les fièvres et, accessoirement, les maladies des yeux, les maux de tête. Les fidèles y ont accès le jour de la fête patronale qui a lieu le 12 octobre. Voilà Sainte Spérie, donc, qui est une sainte réputée dans la région de Saint-Céré.
Très bien. Et bien Chantal, avant de poursuivre, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter du Franz Schubert avec une sonate. Ça vous va?
Très bien, très bien.
C'est parti.
Thank you.
Chantal, deuxième partie de cette émission, on va poursuivre avec quel saint ou quelle sainte plutôt, il me semble.
Oui. En tout cas, merci pour le choix des morceaux que vous nous avez donnés à entendre, Armand.
Avec plaisir, Chantal.
Merci. Alors, ben, écoutez, je vais vous parler de Sainte-Fleur.
Très bien. Qui est fêtée à Issindo, lui, il me semble. Hein. Au mois d'octobre, oui.
Oui, oui, c'est le 5 octobre.
C'est ça.
La fête de Sainte-Fleur, c'est le 5 octobre. D'ailleurs, elle englobe aussi les jeunes filles qui s'appellent Garance, qui s'appellent Marguerite. Vous voyez, bon, c'est vraiment un florilège, c'est le cas de le dire.
Tout à fait.
Alors, elle est née, justement, ces dates précises peuvent prêter à caution, mais enfin, je vous donne la date. Elle est née en 1309, près de Mors, et près de chez nous, donc en Auvergne. Elle est née dans une famille de petite noblesse. On peut l'appeler aussi Flore, et elle entra en religion dès 14 ans chez les religieuses de l'ordre de Malte à l'hôpital Beaulieu, tout près d'Issindolus, sur la route de Figeac à Rocamadour. Fort dévote, elle aurait eu à diverses reprises l'apparition des anges, de Sainte Cécile et du Christ. Elle est décédée en 1347 et fut bientôt canonisée par la Vox Populi, sans attendre une reconnaissance officielle de Rome qui n'intervint qu'au XIXe siècle.
D'accord.
Un texte anonyme de la fin du XVe relate une centaine de miracles qui lui furent attribués de son vivant et après sa mort, tant en Quercy que dans les régions voisines. Alors à quoi ressemble-t-elle ? Eh bien, hélas, on ne connaît pas beaucoup de représentations très anciennes de Sainte-Fleur, si l'on accepte tout de même un bas-relief en bois polychrome du XVIIIe siècle conservé en l'église d'Issindolus et qui rappelle sa vision du Christ. Statues et vitraux la montrent revêtue de l'habit des Maltaises, puisque avec la croix de Malte, robe noire à guimpe blanche, ornée de la croix blanche à huit pointes. Et souvent, elle porte des fleurs dans un pan de ce vêtement. Quant à son culte, il est entretenu par le récit des miracles, qui s'établit dès sa mort à l'hôpital Beaulieu. C'est alors que son tombeau devint un lieu de pèlerinage particulièrement fréquenté le 5 octobre, comme on l'a dit au départ, le 5 octobre. Ces dévotions collectives ne se déroulaient pas toujours dans la sérénité. Il y avait tellement de monde. Et pourquoi sait-on que ce n'était pas vraiment dans la sérénité ? Parce qu'on peut en juger par une ordonnance de l'évêque de Cahors qui, en 1786, à trois ans de la Révolution, ordonne aux religieuses de tenir fermée la porte du monastère tout le jour de la Sainte-Fleur. Vous voyez, l'affluence était grande. En 1793, nous y voilà, dans la Révolution, le tombeau fut profané, les ossements brûlés, à l'exception de la tête et d'un morceau de tibia qui furent récupérés par les fidèles. Après la Révolution, le crâne fut fractionné pour satisfaire les demandes de reliques et le fragment d'os fut finalement donné à l'église d'Issindolus et placé dans un reliquaire. Rétablie officiellement en 1861, la tête de Sainte-Fleur est célébrée depuis cette date à Issindolus avec une certaine solennité qui s'accompagne très souvent, bon, bien sûr, de la vénération des reliques, mais aussi la bénédiction des enfants. Et quelques ex-voto attestent des grâces et des guérisons obtenues, notamment sur les malformations, sur les crises d'épilepsie, sur le mal aux dents même. On peut ajouter que naguère, dans certaines familles, Sainte-Fleur était invoquée pendant les orages contre la foudre. La pauvre, elle a servi de paratonnerre. Voilà pour Sainte-Fleur, que l'on fête, je répète, le 5 octobre.
Et alors, dans le cadre de cette dernière émission, vous avez un troisième saint aujourd'hui.
Oui, oui.
C'est exceptionnel, dites-nous tout.
Oui, c'est Jean-Gabriel Perboire.
Très bien, allez-y.
Alors, oui, je vais vous parler d'un saint qui est plus proche dans le temps, temporellement, donc plus proche de nous, et géographiquement aussi, puisqu'il est né à côté de Montgesti. Alors, il s'agit du bienheureux et saint aussi, Jean-Gabriel Perboire. Il est né le 6 janvier 1802, au lieu dit Le Puech, dans la commune de Montgesti, à côté de Cahors. De parents agriculteurs, mais son oncle, Jacques, qui était lazariste et supérieur du collège de Montauban, le prit avec lui et a su déceler très vite et très tôt chez son neveu une aptitude à la bienveillance spirituelle. Alors, Jean-Gabriel Perboire fut tué à Wuhan, en Chine, ville tristement connue actuellement, puisque c'est à partir de cette ville que s'est répandue dans le monde entier la pandémie que nous subissons, la Covid-19. Donc, il est tué à Wuhan et il est cependant très présent dans nos églises. Jean-Gabriel Perboire fut déclaré vénérable juste 3 ans après sa mort. Il fut déclaré en 1843 par le pape Grégoire XVI et il fut béatifié le 10 novembre. Nous sommes décidément en automne,
et oui.
Fut béatifié le 10 novembre 1889 par le pape Léon XIII. Et tout près de nous, il a été canonisé par Jean-Paul II en 1996. Il devient ainsi le premier martyr de Chine canonisé. Il est mort le 11 septembre 1840 à l'âge de 38 ans. Alors, comment le représente-t-on? Comment le connaît-on? Aujourd'hui, il a des descendants. Enfin, sa famille a des descendants. Il est représenté sur un gibet en forme de croix, symbole de son martyre et instrument de sa passion. Il est vêtu comme les Chinois, d'une toge rouge, et ses cheveux sont tressés, ce qui prouve sa totale approche du peuple qu'il convertissait au christianisme. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Jean-Gabriel Perboire. À Figeac, à l'église du Puy, nous avons une statue, et comme je le disais, la plupart de nos églises lotoises se souviennent de ce jeune martyr.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Chantal. On se retrouvera très prochainement, pour une prochaine émission Patrimoine et Spiritualité. À bientôt Chantal.
Nous allons essayer de chercher et de trouver. Cherchez, vous trouverez.
Exactement, bien dit.
Bon, eh bien, merci beaucoup Armand, merci à vous chers auditeurs, et je vous promets de revenir. En tout cas, ce fut des émissions qui nous ont passionnés et qui nous ont révélé ces nombreux saints martyrs de notre cher département du Lot.
Tout à fait. C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.